Oui.
Bonsoir. Bonsoir Irène.
Bonsoir.
Bonsoir Alain. Bonsoir auditrice, bonsoir auditeur. Ce soir, un tentative première inhabituelle, puisqu'il s'agit de quelqu'un que nous avions, je ne dis pas son nom tout de suite, volontairement Irène, ne fronçait pas les sourcils. Il s'agit donc de quelqu'un que nous avions rencontré il y a quelques années, qui tenait un stand aux puces de Saint-Ouen, stand où l'on ne vendait ni vieillerie, ni autre chose du même genre, ni antiquité, mais qui était une petite galerie au fond d'art ultra contemporain. Il y avait là notre sculpteur sur chewing-gum,
Gilbert Descoussis,
que nous aimons beaucoup et que vous connaissez. Il y avait là
Servin.
Servin, c'est lui dont on va parler maintenant, c'est lui qui va parler de lui. Et nous l'avons rencontré un peu perdu, un peu paumé. Il n'avait plus ce stand, il n'avait pratiquement plus rien. Il ne supportait plus vraiment sa vie à Paris, non pas Paris, mais sa vie à Paris. Et il n'avait qu'une envie, c'est de partir dans le Midi, de partir en Espagne. Et avant de partir, on lui a demandé de faire ce tentative première, qui serait un petit peu comme un autoportrait.
Un jour, j'ai déchiré du papier, j'ai cassé des portes à coups de marteau, et je me suis dit, t'es fada. Mais je savais que c'était ça qu'il fallait faire, alors que j'étais peintre de formation, que je peignais avant. Et j'avais arrêté de peindre 2 ans avant en découvrant ta pièce. C'était une révélation, moi qui étais assez traditionnel, enfin, plutôt traditionnel, j'avais découvert. J'ai été formé par un gars qui était, lui, une espèce de fauve. Alors, quand j'ai travaillé avec lui, j'ai tourné là-dessus, sur des paysages fauves, sur des choses comme ça. Il s'appelait Lambert, qui était un peintre maudit dans sa première expression. Il est mort d'une cirrhose du foie. C'est un très brave garçon, il est un excellent peintre, mais bon. Et donc, j'ai fait ça. Puis après, je me suis monté à Paris, je me suis intéressé à l'abstrait. C'était les années 64-65, les années 60, ouais. Début des années 60. Alors j'ai fait l'abstrait, j'ai eu une période abstraite, et je suis resté au Midi, où je suis revenu à la figuration, mais très déformée. C'était des instruments de musique, ou des femmes, des corps de femmes très déformés, la recherche du volume et de l'arabesque. Mais c'était peinture. Et puis en plus j'ai eu une autre chance, j'ai été élève d'un excellent peintre, mais figuratif, alors pompier, pour moi c'est pas péjoratif, en plus c'est mon patron, alors je l'aime, et qui était un des grands noms de la restauration en France, c'est ce prix Jacques Poincier, qui m'a pris pour restaurer le théâtre de Béziers. Il m'a employé là, moi j'étais à la rue, je faisais la route, j'étais pieds nus, et il m'a pris, il savait que j'étais peintre, et j'ai travaillé avec lui, bon j'ai fait 2 campagnes de restauration au théâtre de Béziers, puis on a fait d'autres restaurations avec lui. Et là j'ai eu une vue, c'est un type qui a une connaissance exceptionnelle du métier, très très vaste, au niveau technologique évidemment, étant restaurateur. Alors, la technologie de la peinture, c'est assez fabuleux ce qu'il connaît. Rien que sur l'école par exemple, il peut vous raconter ça toute une nuit entière. Il a en plus, comme il est restaurateur, il a une connaissance historique de la peinture, c'est-à-dire que ça déroule, pour lui ça se déroule, et quand il parle de peinture, on a une vision très très vaste. Et là sur le théâtre, j'ai eu une chance inouïe que je trouve maintenant, c'est que on faisait le théâtre, on restaurait, on avait des peintres en bâtiment avec nous, tout ça, mais comme j'étais le petit jeune artiste, et à la fin du chantier, à chaque fois qu'on arrêtait, il restait demi-heure, une heure à m'expliquer ses décisions. Il me disait, tu vois, enfin, vous voyez, parce que c'était pour qu'il me vous voyez. Il me disait, là j'ai trop d'horizontale avec les balcons, j'ai trop d'horizontale, donc je mets de la dorure dans les cannelures des colonnes pour renforcer mes verticales, pour pouvoir équilibrer, des choses comme ça. Il m'a raconté ça tout le temps. Voilà. Je j'ai beaucoup d'affection pour mon premier patron, avec qui j'avais... je l'appelais papa, et c'était sincère, je veux dire. Et puis, il m'appelait le petit, et puis... Et mon second patron, c'est différent, parce qu'il était plus... Autant le premier était vraiment le rappel, dans sa plus belle expression, je veux dire, le bohème, bon, et tout. Autant l'autre, quand même, comme il avait rapport toujours avec les musées, des choses comme ça, il était plutôt plus bourgeois, enfin, entre guillemets, bon. Il va se vexer si maintenant. Donc il y a un rapport affectif et de respect. J'ai une profonde reconnaissance pour lui. Mais il y a ce rapport de... Ah, il y a une espèce de rapport filial. Je veux dire, entre le patron. Enfin, j'en ai parlé souvent avec des collègues, il y a une espèce de rapport filial entre le maître et l'élève. Parce que il donne l'essentiel de lui. Et il ne le donne pas à n'importe qui. Je veux dire, tous les deux, ils m'ont mis à l'épreuve. Je veux dire, la première fois que je suis arrivé... sur le chantier, je suis arrivé sur le chantier, moi j'étais pieds nus, j'avais les cheveux longs, c'était en 64 ou 65, j'avais la barbe, et j'étais crado, parce que je faisais la route, j'étais dehors, et je couchais sous une tente qui n'avait pas de tapis de sol, au terrain de camping de Béziers. Et ce qui veut dire que quand il pleuvait, j'en étais à l'épreuve, parce que je n'arrivais pas à dormir de la nuit, il me renvoyait dormir. Et là, il y avait les peintres à bâtiment, et la corporation du bâtiment, c'est quand même des gens qui sont assez durs, ils sont un peu... dans leur tête, eux, ils sont bourgeois, je veux dire, il y a une normalité dans laquelle je n'étais pas. Et le patron m'a appelé Monsieur Servin. Il m'a vouvoyé, il m'a appelé Monsieur Servin. Et tout le monde m'a appelé Monsieur Servin. Et de suite, il a imposé. C'est là où c'est un grand patron. C'est ça, les grands patrons. C'est le type qui sait mener son chantier. Il m'appelait Monsieur Servin et il m'a vouvoyé. Et tout le monde m'a vouvoyé et m'a respecté. Alors que tout le monde se tutoyait, moi, on m'a vouvoyé. Et petit à petit, il a fait ça. Il y a une autre chose aussi assez extraordinaire. Moi, je ne sais pas si je serais capable de le faire. C'est qu'il donnait un travail à l'un d'entre nous. Sachant que ça a mené le travail de l'autre, il y avait une espèce d'enchaînement de boulot qui était, c'est là la marque du type qui connaît son métier et qui gamberge en permanence sur ce qui va se passer, ce qui arrive, ce qui est pas. C'est une vue historique, même dans un chantier, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant, ce qui va se passer après, comment on enchaîne les uns les autres. Il avait très bien distribué le travail. Il m'a formé la deuxième année, on a fait deux campagnes, la deuxième année. J'avais les mains libres pour mener le chantier derrière lui. Quand il y avait un problème, il disait allez voir Servin. Et puis, voilà. Mais il ne m'a pas fait de cadeaux, ils ne font pas de cadeaux, ces gens-là. La première chose qu'il a fait, quand je suis arrivé, il m'a dit, voyez là. Il y avait le lustre, on était sur le plan, il y avait un plancher sous le plafond. On était à hauteur du plafond comme Léonard de Vinci, mais un peu plus petit quand même. Pas Léonard de Vinci, Michel-Ange, je veux dire, pour pas la Sixtine. Mais enfin, la dimension était quand même un étage en dessous. Alors il y avait le plancher, et puis il y avait la place du lustre. Là, il y avait le lustre. Alors, il y a des générations depuis 1840, ça faisait plus de 100 ans qu'il y a des générations de mouches qui ont chié là, alors il y a des chiures de mouches. Vous prenez un grattoir et vous grattez ça. Ça a duré, je ne sais pas, ça a duré au bout d'une semaine ou trois jours, je ne sais pas. J'ai dit, écoutez, monsieur Poincier, il y en a vraiment beaucoup. Ah, il m'a dit, oui, effectivement, il y en a beaucoup. Alors il a pris du coton avec de l'éthylène glycol et puis il a levé les chiures de mouches comme ça. Et il m'a dit, voyez, là il manque une frise, il y a 7 mètres de frise qui manque. Il y avait une frise qui était des branches de prunier, des prunes, des feuilles et tout ça. Alors il m'a dit, il faut que vous fassiez la frise. Et j'ai dit, comment je fais? Il m'a dit, vous êtes peintre? J'ai dit, oui, alors vous débrouillez, c'est votre problème, c'est pas le mien. C'était la mise à l'épreuve. Où je restais, où je partais. Moi je savais que c'était, il connaissait beaucoup de choses, j'aurais balayé par terre n'importe quoi, je serais resté pour écouter ce qu'il avait à dire. Et je suis resté. Mais mes deux patrons étaient très très durs. Ça, c'est l'apprentissage à l'ancienne. D'abord, on fait l'expérience du jeune. Et puis, s'il tient, on le laisse tenir et on continue. le premier a fait, j'étais un garçon, un gosse très timoré, très très timide, tout ça, et je dessinais petit, j'avais pas éclaté ma création. Le premier m'a poussé à éclater, et j'ai éclaté, j'ai dessiné grand, j'avais un dessin très large, et puis je suis parti à la nature, et le second alors a structuré ma réflexion sur la peinture, et c'est surtout cette réflexion sur la peinture qui a structuré, et la vue dans l'espace. J'ai eu cette chance inouïe de rencontrer un type qui connaissait, parce qu'il avait restauré, avait fait restauration à Versailles, il avait fait des grandes restaurations, il savait comment fonctionne l'espace. Et je sais que quand je fais des installations actuellement en tant que plasticien de recherche actuelle, quand je fais des installations sur l'espace, j'ai des collègues architectes qui me disent « c'est assez étonnant comment tu interviens, on n'a jamais rien à redire sur ce que tu fais, parce que j'ai appris l'espace ». C'est vraiment une dette que j'ai envers cette tradition qui m'ont transmise. Mais c'est quand même intéressant de le dire, parce que quand un type comme moi casse les portes à coups de marteau, ou des collègues font un travail comme ça, ça veut dire quand même qu'on sait ce qu'on fait, qu'on ne va pas n'importe où, qu'on a une connaissance du métier. Et que moi, je lui ai dit, tu sais, les règles sont les mêmes. Que j'ai vu mon patron, j'ai dit, tu sais, les règles, c'est pareil. Quand je mets en place une porte, j'ai les couleurs, j'ai les formes, j'ai des lignes, et il faut que ça fonctionne ensemble. Et puis, il n'y a pas de secret. L'œil fonctionne d'une certaine façon, il faut l'amener là où on veut l'amener, et puis les règles sont les mêmes. Donc c'est pour ça que, bon, je pense que... C'était nécessaire de le dire, de dire qu'on ne vient pas de nulle part pour aller n'importe où. On vient de quelque part et on va, on suit le chemin historique que m'a montré mon parent, patron, qui lui connaissait l'histoire, et il y a un chemin historique que j'ai suivi. Et puis par la suite, bon, les circonstances ont fait que j'ai été brocanteur et j'ai acheté beaucoup de peintures et j'ai vendu beaucoup de peintures. Et là, j'étais obligé de me former l'œil parce qu'il ne fallait pas que j'avais très peu d'argent pour acheter. Dès que j'avais un peu d'argent, il disparaissait tout. Alors il fallait que j'ai un œil pas possible pour arriver à trouver ce qu'il fallait pour rien. Et ça m'a formé de nouveau le travail sur la tradition, la façon dont fonctionne la peinture, et là aussi j'avais une dette envers mes patrons. Et tout ça, ça a formé une culture nécessaire pour arriver à aller au-delà de la réalité d'aujourd'hui. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas même pas ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je vais faire demain, et ce que font les collègues autour de moi. Alors, à partir du moment où, pour en revenir au début de mon discours, à partir du moment où j'ai commencé à déchirer du papier et casser les portes, j'ai dit « t'es fada ». Alors j'ai montré ça à des copains, des amis qui étaient... au canteur ou qui était peintre, et ils m'ont dit, mais tu sais, c'est plus intéressant que ta peinture d'origine, c'est vraiment très intéressant. Alors j'ai dit, t'es pas fada, mais alors tu comprends rien ce qui se passe. Et voilà, j'ai divorcé, j'ai quitté tout, j'ai quitté les enfants, j'ai divorcé, je suis parti dans la nature. Il fallait absolument que je sache. Et là, c'est là que j'ai fait des émissions sur Radio Libertaire, mais sur d'art plastique, était surtout tourné, j'étais surtout un créateur. C'est ce que les gens n'ont pas voulu comprendre. On m'a d'abord... Ben, j'ai fait plusieurs expériences artistiques, donc on m'a collé des étiquettes, mais en fait, moi, je suis toujours resté un créateur. Et mes émissions n'étaient pas du tout celles d'un journaliste ou de quoi que ce soit de radiophonique. C'était un plasticien qui parlait de son métier avec d'autres artistes pour comprendre son métier. Et là, j'ai invité le maximum de chercheurs, de chercheurs artistiques, plastiques, pour arriver à comprendre pourquoi je cassais les portes à coups de marteau. Et petit à petit, j'ai compris comment fonctionnait l'art actuel. Thank you. là-dessus, j'ai mon ami Jean Touzeau qui faisait mission avec moi, qui avait un lieu qu'il ne pouvait pas occuper pendant 2 ans, qui était un café de... un bougnat qu'il voulait acheter. Alors il a cassé la réserve à charbon et il est arrivé René Pic, un autre animateur, et ils en ont fait une salle de spectacle pour la chanson française, parce qu'ils étaient très très mordus de chansons françaises. Et devant, là où il y avait le café, ça faisait un petit bar. Et là, ils ont monté le trou noir. Le trou noir, parce que la femme de Jean est une scientifique, donc le trou noir scientifique. Le trou noir, peut-être parce qu'on était un peu, on était encore un peu anarchiste sur les bords. Et puis le trou noir, parce que c'était vraiment assez crado, hein, histoire de charbonnier. Et là, il s'est passé des tas de trucs. Et là, j'ai monté, personnellement, des soirées de poésie sonore. Avec qui pendant un an ou un an et demi, qui ont fini sur un festival assez important de poésie sonore avec tous les poètes sonores parisiens. Mais là aussi, ça faisait partie de ma recherche personnelle. J'essayais de comprendre ce qu'étaient ces poètes élémentaires qui travaillaient, qui se disaient poètes, mais qui faisaient des collages, des trucs visuels, et qui faisaient également. Et qui montait sur scène pour faire les couillons en criant comme des veaux, en faisant des projections de diapositives, de films, de machins, avec des bandes sonores qui venaient dedans, à deux, à trois, à plusieurs, tout seul. Bon. Et pour apprendre, et je suis aussi monté sur scène et je suis rentré dans ce courant de poésie sonore. Et on arrive là, aux marges qui me paraissent être la création actuelle, c'est-à-dire qu'on n'est plus plasticien, on n'est plus poète, on n'est plus musicien, on est quelque chose d'autre, comme dirait mon ami Alpave, le poète. On cherche quelque chose d'autre, on est sur les frontières. Il y a un problème essentiel sur lequel il faut parler quand même, c'est que on a un problème financier. On n'arrive pas à survivre. Parce que y a une désaffection du public vis-à-vis de nous. On nous aime beaucoup, mais nous voir, enfin, on a un petit public qui nous achète jamais. On a des revues, on les tire à 500 exemplaires, on en donne 300 aux types qui s'intéressent, on en a 200 qui nous restent sur les bras, et on a investi de l'argent, on n'a pas revu. On n'a même pas de quoi avoir l'argent pour en refaire une autre. Et quand on montre les œuvres. On a beaucoup de compliments, on a des grands succès d'estime, ça pour des succès d'estime c'est bien. Quand moi j'ai ouvert le trou noir, j'ai fait payer l'entrée, et tant que j'ai pas fait payer, il y avait du monde qui n'avait pas payé l'entrée. Moi j'ai eu, je veux dire quelque chose qui est lamentable, si c'est lamentable, parce que moi c'est un poète. Bon, il va se mettre à se vexer. Enfin, je ne dirais pas son nom, j'ai eu un très grand poète, un type qui est vraiment un type exceptionnel, que j'aime beaucoup, où il y avait 4 personnes dans la salle. J'étais malheureux, et c'est un nom de la poésie. C'était pas uniquement son nom, hein. C'est un type qui a une dimension internationale, et pas seulement dans nos milieux, dans nos réseaux à nous. Hein. J'avais 4 personnes parce qu'il fallait payer l'entrée, je veux dire. Alors, il faut trouver une solution. Alors, moi, c'est mon combat, et je me bats avec les collègues là-dessus, parce qu'ils ont tous un deuxième boulot. Moi, je veux pas. Moi, quand j'ai voulu être peintre, j'étais tout gamin, je sais pas quel âge j'avais 11 ans, 12 ans. On m'a dit, il faut que tu apprennes. Il faut que tu appelles un autre métier parce que tu feras ça le samedi et le dimanche. Je dis, moi non, Van Gogh c'était un peintre, il en est mort. Et bien, si je dois mourir, je mourrai, mais je serai peintre. Et je crois que c'est une insulte à faire un autre métier que de dire, il faut en faire un autre. Je veux dire, quand un fonctionnaire de la culture, ils ne le disent plus maintenant parce qu'ils ont dû se faire entendre, ils ont dû entendre notre son de cloche, mais moi je me suis entendu dire, vous n'avez qu'à faire un autre métier. Je veux dire, c'est bien gentil, ils n'ont qu'à faire du bénévolat à la culture. Et puis faire un autre métier pour manger. Je veux dire, pourquoi nous, on ne ferait pas ce métier. Bon. Donc il y a des solutions à trouver. Donc moi, je pense que ces solutions, justement, sont peut-être à trouver avec la nouvelle création, étant donné que nous sommes artistes de frontières. Moi, je suis aussi bien poète sonore que poète papier, enfin, d'écriture, qu'installateur, que plasticien, que sculpteur, bon, je dis peinture parce que c'est mon origine. Et donc, lier les expositions, les performances poétiques ou autres, et les publications pour arriver à trouver le peu d'argent il me faut pouvoir, parce que bon, je vis dans des conditions très difficiles, même ben, je vis avec très peu. Bon, c'est un choix, j'ai des tas de plaisir, avoir le travail des copains, moi ça me suffit, je n'ai pas d'autres besoins. Mais arriver à avoir ce peu d'argent qui permet de continuer, parce que le vrai problème, c'est d'arriver à continuer à travailler. Alors moi, que je sais que même j'ai fait des travaux à mi-temps, ça me prend la tête, je ne peux plus travailler, il me faut 4 jours pour me replonger dans moi-même, pour arriver à sortir quelque chose de créatif, quand je fais un autre travail que celui-là. Tandis que quand je fais de l'animation, non, au contraire, c'est dynamisant, ça m'oblige. Je suis confronté au travail des copains, s'ils sont meilleurs que moi, je ne suis pas content, je suis le meilleur de toute façon. Alors, on est tous mégalos. Si on n'est pas mégalos, on ne peut pas tenir parce qu'on crève, on laisserait tomber si on ne croyait pas qu'on serait obligé. Je dirais, si c'est ça qui nous tient, autrement on ne ferait pas ce qu'on fait, parce que c'est la folie d'investir comme ça son temps, son argent, son énergie dans des choses qui sont complètement folles.
France Culture, clair de nuit, vous écoutiez Servin, autoportrait de l'artiste par lui-même.